BFM Radio, édition spéciale.
Bonjour à tous, bienvenue dans Affaires Suivantes. On est dimanche, il est 13h, ravi de vous retrouver cette semaine avec mon complice Dominique Rizet.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Au programme, sommes-nous passés à côté de tueurs en série? On connaît les parcours criminels de Francis Holm, du Grélé, de Nordal Le Landais, de Dominique Pellicot. Mais combien ont échappé à la justice? Combien encore dans la nature? La science peut-elle nous aider?
Rendez-vous ensuite avec le médecin légiste le plus connu du web, Philippe Boxo, est notre invité pour un entretien exclusif, criminologue, légiste belge. Il s'est confié à nous, vous lisez des livres, et bien lui, il lit les corps des morts sur la table d'autopsie, tout en maniant l'humour avec les vivants. Vous verrez, on peut aussi en rire.
Et puis nous ferons main basse sur le Louvre, plonger ensemble dans les secrets du casse d'octobre dernier. Où sont passés les bijoux? À quoi ressemble cette bande de malfaiteurs? Et qu'ont-ils raconté aux policiers? Nous recevrons les auteurs de cette enquête qui se lit comme un polar.
Affaire suivante, c'est tout de suite, vous ne bougez pas.
Sommes-nous passés à côté de tueurs en série? On connaît Nordal Le Landais, Michel Fourniret, Guy Georges, Dominique Pellicot, Le Grélé. Peut-on leur attribuer d'autres crimes? Et y a-t-il surtout d'autres tueurs en série dans la nature? C'est la question que se pose Thibaut Solano, que je suis ravie d'accueillir. Sommes-nous passés à côté de tueurs en série? J'accueille aussi le général Daoust, ex-patron de l'URSSAGN. Merci mon général d'être avec vous. Et ravi de vous retrouver. Alors Thibaut, vous avez enquêté sur 9 dossiers criminels et je dois confesser que j'en ai découvert quelques-uns. Les fillettes du printemps de 1987 en Ile-de-France, les meurtres de Saône-et-Loire. Dominique, ça vous rappelle quelque chose?
Oui.
C'est votre région,
chez
on
moi.
Va en parler. Mais d'abord Thibaut Solano, vous avancez un chiffre. 57 tueurs en série dans les années 70 que vous mettez en miroir avec 4000 dossiers de cold case. Il y a un grand delta. Alors, combien ont pu échapper à la justice et comment on arrive à remonter ces individus?
En fait, il y a un double paradoxe avec les tueurs en série. C'est à la fois, quand on les connaît, quand on découvre les dossiers, ils sont beaucoup moins fascinants que ce que la fiction, et notamment la fiction américaine, a pu nous laisser penser. Et en même temps, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Parce que c'est vrai, comme vous l'avez rappelé, le grand public connaît Le Landais, encore que Le Landais n'est pas officiellement dans la catégorie, mais il connaît Fourniret, Guy Georges, etc. Et il y en a d'autres qui ont été complètement oubliés. Et je suis même certain que mon chiffre de 57 est en dessous de la vérité. Parce que pour avoir le vrai chiffre, il faudrait par exemple aller à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, faire toute la presse régionale, ou en tout cas tout le Parisien depuis les années 70, pour retrouver des tueurs qui n'ont même plus aucune trace sur Google. Et puis, effectivement, si on est en dessous de la vérité, c'est aussi parce que j'en suis sûr et je me fais en fait le porte-voix de magistrats, d'avocats qui en sont persuadés également et d'enquêteurs. On est forcément passé à côté d'autres tueurs en série.
Qu'est-ce que c'est qu'un tueur en série?
Exactement.
Alors, officiellement, et c'est par exemple également la définition qu'a retenue le psychiatre Daniel Zaguri, grand expert en la matière, puisqu'on a expertisé plusieurs, un tueur en série, c'est quelqu'un qui tue trois fois,
minimum,
à trois moments différents.
Au moins trois fois.
Au moins trois fois, à trois moments différents. Un double meurtre plus un meurtre, ça fait pas un tueur en série. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la justice maintenant reconnaît les meurtres en concours. On peut être mis en examen pour meurtre en concours. C'est le cas, par exemple, de la personne qui aurait tué 4 hommes retrouvés dans la Seine à l'été 2025.
Meurtre
en concours, voilà, les corps de choisi. Meurtre en concours, il suffit de 2, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de tueurs, comme Nordal Le Landais. Je parle aussi d'un auteur en Saône-et-Loire, Pascal Jardin, qui n'ont pas officiellement 3 victimes dans leur parcours criminel, mais qui, selon tous les experts, ont le mode opératoire et la personnalité d'un tueur en série.
Mais il faut que ce soit le même mode opératoire à chaque fois pour que ce soit...
Non. La preuve, le Grélé, qui s'en est pris à une fillette, qui s'en est pris à une jeune fille au père et à son employeur, et à un homme par...
Francis Holm, qui tue des enfants, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. La tuerie de Chevaline, 4 morts.
Oui.
Sylvain Mollier, le cycliste, et puis la famille à Lily, le père, la mère, la grand-mère, c'est pas un tueur en série.
Non. normalement, c'est
il
pas.
Il n'a pas les critères.
C'est une tuerie, voilà. Mais c'est pas un tueur en série. Sauf si le jour où on découvrira l'assassin, on s'apercevra qu'il en a tué d'autres avant.
J'ai un peu de mal avec le tueur de celui. Vous parliez de la scène, là, celui qui tue deux personnes, c'est le tueur de.
Non, les corps de Choisy,
les corps de Choisy, il en a tué quatre, mais Nordal-Hollandais.
Vous avez dit que c'était un tueur, c'était.
Meurtre en concours.
Meurtre en concours. Ça, c'est la définition légale qui est assez récente, où effectivement, l'homme de Choisy a été mis en examen pour meurtre en concours, mais si on avait tué que deux, il aurait eu la même mise en examen.
Alors moi, je fais appel à mes deux anciens sur le plateau, d'accord. De votre expérience, quand est-ce qu'on a commencé à parler de tueur en série? Est-ce que quand on donne cette appellation, il y a un petit peu longtemps, on ne vous croit pas? Ou on vous dit, c'est pas pour la France?
Alors, il y a un film qui a fait date, c'est Le silence des agneaux, et qui a révélé à la France qu'il pouvait y avoir officiellement des tueurs en série. En oubliant le Gilles Doré, en oubliant Docteur Petiot, en oubliant Vacher, Landru, etc. Et en se disant, c'est une culture outre-Atlantique que l'on n'aura pas. Et je me souviens dans les années, début des années 90, quand le Service Central de Renseignement Criminel à la Gendarmerie, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voulait développer une entité sur justement les meurtres qui étaient en série, eh bien, on a dit, attendez, c'est pas pour nous, occupons-nous d'abord de nos meurtriers à nous, le reste, on verra. On a mis plus de 10 ans à faire admettre le concept.
Alors, comme je suis le plus ancien de nous deux, moi, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans, donc on est en 85-86, je travaille à France Soir, et je vais travailler sur les disparus de Mourmelon. Oui. Donc, je vais faire le tour. Tu en parles dans ton livre, hein, Thibault. Le tour de... En
Chanal.
Fait, il y en avait 7 ou 8. Chanal. Le tour des victimes, peut-être, de Chanal, parce qu'il est mort au deuxième jour de son procès. Innocent.
Exact.
Présumé innocent. Donc, je vais faire le tour. Il y a 7 ou 8 victimes officielles. Moi, j'ai fait 15 familles. Hein, j'ai fait le tour. Je suis allé les voir. Et à l'époque, la police scientifique de la gendarmerie n'existait pas. N'existait pas. C'était un laboratoire qui s'appelait le CARM, Centre d'application recherche microélectronique à Bordeaux. Loïc Leribaud. Et donc, quand il y a eu plusieurs morts, comme ça, qu'on attribuait à la même personne, sans doute, et c'était très vraisemblablement lui, eh bien, on parlait pas de meurtre en série. Ça n'existait pas. C'est une succession d'affaires, mais le terme tueur en série, c'était vraiment quelque chose qui venait d'ailleurs, qui venait des États-Unis, quelque chose qu'on a l'impression d'avoir hérité d'eux, alors que c'est aussi bien chez nous que chez eux, peut-être encore plus chez nous, parce que les États-Unis existent depuis 400 ans, 450 ans, on existe depuis 2000 ans.
Ouais. Alors nous avions la chance d'avoir pu aller, comme vous, au Paul Cold Case de Nanterre. On a pu pénétrer dans cet endroit que nous, journalistes PJ, on fantasme complètement, et notamment de voir cette fameuse salle décellée. C'est presque l'endroit le mieux gardé de ce Paul Cold Case, on le rappelle, c'est là où on travaille sur les crimes non élucidés. Est-ce que, mon général, la science peut nous aider?
Alors oui, la science peut aider. Et alors c'est dans le livre, vous le faites très bien remarquer, et c'est quelque chose qu'on retrouve ici régulièrement pour des affaires assez anciennes. Les scellés ont été détruits ou ils ont disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus et c'est quelque chose de dramatique parce que au moment où ils ont été faits, toutes les techniques n'existaient pas et en particulier c'est pour la recherche d'ADN et même pour la recherche d'ADN, on sait que ça a beaucoup évolué entre les prélèvements et les analyses d'il y a 20 ans et ce que l'on peut faire actuellement, c'est autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça, face à ce, je dirais un petit peu, cette errance en matière de scellés, qu'a été créé le Service Central de Préservation des Prélèvements Biologiques, qui est rattaché au laboratoire de la gendarmerie, mais qui fait partie du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Pourquoi? Parce que c'est la banque de tous les scellés biologiques, de toutes les affaires, police, gendarmerie, sans distinction. Et ça permet de garder cette mémoire qui va servir. Et là, on anticipe pour les techniques qui arriveront dans 40 ans.
Et on rejoint le livre de Thibault. Donc, tu dis, il faut éviter les prescriptions. Parce que voilà, les meurtres sont prescrits au bout de 20 ans, c'était 10 ans à l'époque, c'est 20 ans maintenant, c'est quoi le problème?
Le problème, c'est qu'effectivement, vous avez ce Paul Cold Case qui essaye d'aller chercher la vérité 40 ans après et qui se retrouve face à un mur qui s'appelle la prescription. On a par exemple l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Marie-Thérèse Bonfanti, elle disparaît en 1986, elle a 25 ans, c'est une jeune mère de famille.
Livreuse de journaux, on se souvient de l'histoire.
Exactement, à Pontcharra, près de Grenoble.
Exactement. Les disparus de Pontcharra.
C'est ça, et on retrouve sa voiture à côté de la maison d'un homme qui s'appelle Yves Chatin, qui va devenir suspect principal, qui va être placé en garde à vue, mais qui va tout nier. Eh bien, il se trouve que grâce à l'acharnement de la famille, 36 ans après, le dossier est rouvert à Grenoble, l'homme est à nouveau placé en garde à vue, il avoue le meurtre pour un mobile futile. Hein. Il dit « elle était mal garée, on s'est disputé, je l'ai étranglé, je l'ai jeté dans un ravin ». Et donc, on arrive avec un suspect qui avoue, qui passe quelques mois en prison, mais puis qui est libéré avant même d'organiser un procès, pour cause de prescription. Et la Cour de cassation, parce qu'il y a eu toute une bataille judiciaire, je dirais même un chemin de croix judiciaire, a fini par acter la prescription.
Donc ils n'ont pas suivi la famille ?
Non, la famille est restée toute seule.
Donc Yves Chatin ne sera jamais jugé ?
Alors, il ne sera jamais jugé alors qu'il a avoué, et qu'en plus, il y a eu deux autres meurtres ou disparitions de femmes dans le même secteur, dans la même avenue, pour lesquelles il fait figure de suspect.
Paradoxe de cette société, la nôtre, où on est capable d'aller chercher par les cheveux, 40 ans après, l'auteur d'un crime, mais pas capable de le juger. Parce que la justice n'est pas adaptée. En tout cas, les lois ne sont pas
adaptées. C'est la loi.
C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, une magistrate du Paul Colquest qui vous souffle, nous avons fabriqué nos tueurs en série, ce sont les manquements de l'institution judiciaire qui ont permis de sévir encore. On est exactement dans ce cas de figure-là. Alors maintenant, le pire, le plus dissimulateur, le plus agile des tueurs en série, vous en avez quand même une très très belle collection dans ce livre. Lequel est-ce pour vous ?
Je dirais que, alors parmi ceux qu'on a déjà trouvés, il y a le grillé, bien sûr, parce que c'est à peu près le seul qui ressemble au tueur en série à l'américaine. C'est-à-dire vraiment, la plupart des tueurs en série sont des marginaux, ou disons qui tutoient la marginalité, ils sont assez bas dans l'échelle sociale. Et le grillé, il est d'abord gendarme, il est ensuite policier, il commet des meurtres extrêmement sauvages, il s'en prend à tout type de victimes, justement, un homme, une fillette, un couple. Et lui, on sait qu'il a pu s'arrêter, a priori, mais on ne sait pas tout ce qu'il a fait. Un jour, il avoue à son voisin être traumatisé par des scènes de crime sur lesquelles il allait enquêter en tant que policier ou gendarme. Et en fait, il décrit deux scènes de crime, l'une des deux, qui raconte l'histoire d'un homme et une femme retrouvés morts dans un appartement avec des brûlures de cigarettes sur leur corps. C'est un meurtre qu'il a lui-même commis dans le quartier du Marais à Paris en 1987. Et il va raconter à ce voisin-là, j'ai aussi découvert une scène de crime terrible d'une fillette sauvagement mutilée sexuellement. Et là, par contre, on n'a jamais trouvé à quelle scène de crime ce souvenir ou ce faux souvenir correspondait.
Et Thibault, si on avait bossé un peu plus, il n'a jamais été flic en PJ, lui.
Non.
Ni gendarme en PJ.
Non,
donc il ne peut pas avoir vu une scène de crime, sauf à arriver comme ça, primo-intervenant.
Voilà, c'est ce qu'il raconte, c'est les primo-intervenants.
Il pousse le vice jusqu'à se dévoiler, parce qu'on va le retrouver sur une émission de télévision. Donc en fait, c'est assez sophistiqué. Pour se dissimuler, il faut s'exposer. Enfin, en tous les cas, il y est allé jusqu'au bout, et puis il a décidé de se donner la mort.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le clivage avec les experts psychiatres. C'est-à-dire que, sans doute que François Vérov, quand il est allé participer au jeu de Nagui sur France 2, tout le monde veut prendre sa place, soit il s'est vraiment senti dans une impunité totale en se disant on me reconnaîtra pas et même si on me reconnaît, on fera rien contre moi. Ou alors il a clivé. C'est-à-dire qu'il s'est dit non, mais le tueur, ça fait partie de moi, mais c'est plus moi aujourd'hui. Je peux aller tranquillement sur un plateau
télé. C'est fascinant quand même.
Est-ce que, comme dans les films américains, le tueur en série, à un moment, il a envie de se faire prendre pour qu'on sache que c'était lui, pour qu'on sache jusqu'à quel point il était presque parfait dans la commission des meurtres qu'il réalisait.
Alors, dans le cadre de ce travail, je suis allé voir le psychiatre Zaguri, je fais beaucoup référence à lui, mais bon, c'est un peu le
poids lourd. Vous avez le droit,
il est excellent.
Et il m'a cassé un peu tous mes mythes, hein, quand je suis arrivé dans son bureau. C'est-à-dire qu'effectivement, il a dit d'abord, le tueur qui défie la police, non, ça n'existe pas, la plupart des tueurs se cachent, veulent rester en liberté,
ils veulent pas se faire prendre,
ou ils ont honte. Et par exemple, Chanal s'est suicidé parce qu'il voulait pas affronter son procès.
Le grillé aussi.
Voilà, exactement. Le copier-coller des victimes, ça n'existe pas vraiment. Guy Georges avait des victimes qui se ressemblaient plus ou moins, mais en fait, plutôt grossièrement, c'est pas...
Elles étaient à Paris, vraiment... elles étaient jeunes, quoi.
Voilà, c'est tout. Voilà. Donc ça va pas plus loin. Mm-hmm. Et évidemment, le tueur en série très intelligent, qui parvient à dissimuler ses crimes. En fait, non, effectivement, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il bénéficiait surtout des ratés, des enquêtes de police, et parfois de gendarmerie.
Oui.
En général, votre tueur en série... préféré, s'il est mis.
Alors, je dirais pas préféré, mais qui est étonnant, qui intrigue le plus. J'en ai deux. J'ai Allègre parce que c'était quelqu'un qui était à Paris, à Toulouse, etc., a beaucoup voyagé. Partout où il est allé, quand il tuait, il n'était pas dans ce qu'on appelait la zone de confort. Alors, tous ne vont pas dans une zone de confort.
Il prenait des risques.
Après, la plupart de et toutes ces victimes n'étaient pas non plus des prostituées, ce qui fait que il n'avait pas un axe bien particulier.
Stratège. Il mettait le feu aux appartements pour faire croire que l'appartement avait pris feu.
Et c'est Francis Holmes. lui, c'est le parcours, c'est le routard, c'est quelque chose où on voit un homme qui est invisible pour la société, parce que les SDF, on ne les voit pas, même si on sait qu'ils sont là, on ne veut pas les voir. Et à travers ça, et partout où il est passé, il a laissé des meurtres terribles. Donc, avec...
Et il a même fait endosser la responsabilité à d'autres.
Bien
Patrick
sûr.
Gilles, Montigny-les-Metz, Alexandre et
exactement.
Cyril.
Et vous
et il a embarqué avec lui Laurence Guillaume, quand il tue Laurence Guillaume, son cousin. Quand il tue Joris Vivil à la sortie d'un camping dans le Midi, il embarque un infirmier avec lui dans la voiture, enfin des gens qui n'ont rien à voir avec Francis Holm.
Oui.
Il arrive à les embarquer avec lui parce qu'il ne conduit pas. Et à leur dire, tiens, viens, emmène-moi, on va faire un truc tous les deux.
Et vous, Dominique?
Celui qui me bluffe le plus, Holm.
Bluff, non, intrigue.
Non, non, ouais. Oui, enfin bluff au sens de journalistique de mon univers, pardon, oui.
Vous, c'est qui?
Merci de me reprendre là-dessus. Mais Francis Holm. Parce que Francis Holm, il est tellement imprévisible et il est Allègre est intelligent, Fourniret est intelligent, Le Grélier est intelligent. Holm, j'ai utilisé une expression, bon, pardonnez-moi pour tous ceux qui nous écoutent, mais il est teubé, quoi. Quand on le voit, puis moi je suis très pote.
Alors nous on dit bas de plafond en général.
Oui, je suis très pote avec Jean-François Abgral, qui est le gendarme comme qui l'a retrouvé.
Tout à fait.
Et Jean-François, quand il parle de lui et de ses entretiens avec lui, il me dit mais pas du tout, pas du tout. C'est un calculateur. Il raconte des scènes de crime en disant il a fait ça, je l'ai vu faire ça. Et c'est lui, comme Le Grélier, qui raconte, j'étais là, j'ai tout vu, j'étais sur la scène de crime. Et puis, j'avais vu la sœur, j'avais rencontré sa sœur, Christine Holm. Christine Holm-Goncalves, qui depuis, on ne veut plus parler, ni à moi, ni à personne d'ailleurs, mais qui me parlait son frère avec tellement de tendresse. Puis, il y a le moment où il passe, où il bascule, la mort de sa mère, il part sur les routes, et vous allez voir, parce que Jean-François Abgral continue à travailler, qu'on va sortir...
Oui.
Il va sortir d'autres affaires.
Oui.
Le pôle Colquès.
Ils ouvrent le parcours. Exactement.
Même si Francis Holm est en mauvaise santé.
Oui.
Et, il faut qu'il
est passé dans l'hôpital pénitentiaire dans lequel, au sein de la prison, là où il est incarcéré. Ouais. Dernière question, Thibault. Est-ce qu'il existe encore des tueurs en série?
Bien sûr. D'abord, ça ne peut pas disparaître comme ça. Effectivement, on se dit qu'avec les techniques scientifiques, plus aucun tueur en série ne peut passer entre les mailles du filet. Bon, si on se penche sur Nordal Lelandais, qui a tué officiellement deux victimes, on ne sait pas, peut-être qu'il y en a une troisième, en tout cas pour l'instant on n'a pas trouvé. Nordal Lelandais, il a un vrai mode opératoire de tueur en série. À chaque fois, il s'en prend à des victimes vulnérables. Un caporal qui sort de boîte un peu éméché en avril 2017, une jeune fille lors d'une fête de mariage. Il est dans sa voiture, il les frappe à coups de poing, et surtout, il parvient à dissimuler les corps dans des endroits où personne autour de cette table n'aura envie d'aller à 3h du matin, c'est-à-dire vraiment dans la montagne, dans la forêt. Et en fait, déjà, Nordal Lelandais, dans les années 80, il serait passé inaperçu. Là, on le coince grâce à la micro-goutte de sang, mais surtout, c'est dissimuler un corps. C'est comme ça qu'un tueur en série peut encore agir aujourd'hui.
Merci à tous pour vos lumières. Excellent travail d'enquête, Thibault Solano. En espérant que grâce au progrès de la science, mon général, des certaines affaires s'éclairent enfin. Merci, messieurs, dans un instant. Bougez pas, Dominique, on a un rendez-vous médical.
Regardez, je bouge pas une oreille.
C'est une consultation. Restez avec nous.
BFM Radio, édition spéciale.
Il est 13h30. Dominique, c'est l'heure de votre rendez-vous médical.
Oui.
Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Mais pas avec n'importe qui.
Je crois que je suis en mauvais état. Hein.
Avec Philippe Boxo, le légiste le plus célèbre du web. Petit, il voulait devenir prêtre. Bon, finalement, il est devenu légiste. La mort, c'est son quotidien. L'humour est l'une de ses armes. On l'a rencontré ensemble.
Oui.
Il y a quelques semaines, il est suivi par des milliers de followers sur les réseaux. Avec lui, les morts ont la parole. C'est le titre de son dernier livre, Entretien inédit. Regardez, on se retrouve juste après la consultation.
Qu'est-ce que ça raconte à mort? Comment, j'ai envie de vous dire, comment vous commencez la rencontre avec le mort? Vous arrivez, vous l'observez, vous le regardez, comment est-ce qu'on...
Je crois que je fais comme tous les légistes, on commence par faire le tour de la pièce, pour voir dans quelle ambiance il vivait, quel était son niveau de vie, s'il était malade, s'il y a des médicaments sur la table, on a déjà un indice, on fait le tour de la pièce. On trouve aussi parfois une douille, on trouve aussi parfois des projectiles, une arme à feu, un couteau. Hein. Donc ça vaut la peine de faire le tour. Ensuite, on s'intéresse au cadavre, on le déshabille et on l'examine de la tête aux pieds, des pieds à la tête, sur les deux faces, avec beaucoup, beaucoup de circonspection et avec une belle lampe frontale pour un bel éclairage.
Vous lui parlez?
Non. Non, il ne va pas me répondre.
Je sais, mais c'est le raisonnement à voix haute, quoi.
Ah non, je ne fais pas ça. Okay. Je ne fais pas ça. Je parle pas.
Oui, dites pas, tiens, il t'est arrivé un drôle de truc, là.
Non, par contre, je parle parfois aux policiers. En leur disant, tiens, tu vois, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est important. On va faire le tour, on verra après ce que ça peut avoir comme sens, mais c'est peut-être un élément décisif.
Ce qui est génial, c'est l'humour. C'est la meilleure arme pour parvenir à surmonter les scènes de crime.
Sûr.
Vous écrivez, c'est de la mort que nous nous amusons, voire de ses circonstances, mais jamais du mort lui-même. C'est important.
Chez nous tous, hein, il n'y a pas que moi, hein, chez tous les médecins légistes, France, Belgique, c'est interdit.
On ne peut pas sourire de la mort.
On doit sourire. Si, si. On doit même rire de la mort. Je dis toujours, il faut rire de la mort avant qu'elle ne nous sourie. Mais rire de la manière de mourir, rire de la mort en soi, mais pas rire du mort.
Et la médecine légale, vous écrivez, n'est pas un métier triste. Vous l'égayez d'une certaine
tout.
Manière.
Ah, moi, je trouve pas ça.
C'est pas sinistre.
C'est sinistre quand ça touche les gosses, les enfants, quoi. Ça, il n'y a personne qui rigole, hein. Objectivement, là, c'est le moment où, en salle d'autopsie, on sent, il y a une espèce de chape de plomb qui tombe. On se parle même pas. Ce sont des autopsies silencieuses. Ça arrive jamais, ça. Normalement, lors d'une autopsie, bon, on se connaît, hein. Liège, là où je travaille, c'est une petite ville. Je connais tous les policiers. Je connais tous les intervenants de scènes de crime. On connaît nos vies. Je suis allé au mariage de certains, à l'enterrement d'autres. Bon, enfin, ceux-là, on les voit plus, hein. Mais voilà, ça crée comme une émulation. Donc, en salle d'autopsie, c'est une salle de partage. On se raconte nos vies. On parle de nous.
Parfois, je me sens pas inconfortable avec la mort. C'est pas quelque chose qui me dérange. Et même la raconter, raconter la mort des autres, les circonstances de la mort des autres, c'est pas vraiment un truc qui me dérange. J'ai l'impression qu'on est un peu, et Pauline maintenant qui va y venir aussi parce qu'elle va, elle va prendre de l'âge aussi. Est-ce que c'est normal qu'on réagisse comme ça?
Totalement. Mais on est des gens normaux, hein. On n'est pas psychopathe parce que on n'a pas peur de la mort. Le truc que l'on doit faire, vous comme moi, à un moment donné, ça va régler notre problème avec la mort. Sans quoi ce métier-là, vous ne sauriez pas le faire, moi je ne saurais pas faire le mien.
Mais comment on le règle, aidez-moi?
Pouah, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, c'est la confrontation. À force de voir des morts, je me suis rendu compte que la mort existait, hein. Parce que dans notre société, elle est masquée, on ne la voit pas. On ne la voit pas, on en parle à peine.
Elle
est morte, mais quand vous arrivez, le cercueil est fermé, vous ne voyez, voyez pas le corps. Alors que dans les dizaines d'années qui viennent de s'écouler, moi, parfois, chaque fois que j'allais voir un mort chez lui, pas comme médecin légiste, mais comme membre de la famille ou sympathisant, ami de la famille, le corps était bien visible et on pouvait se rendre compte qu'il était mort. Et on se rendait compte de ce qu'était la mort. C'est extrêmement prenant.
Qu'est-ce que vous auriez aimé autopsier dans l'histoire?
Napoléon, je suis sûr qu'il n'est pas mort intoxiqué à l'arsenic. Et j'aimerais bien trouver de quoi il est mort.
C'est quoi votre hypothèse?
Une défaillance multisystémique. Il s'est laissé aller, à mon avis. Hein.
Et qui est-ce que vous ne pourriez jamais autopsier?
Personne.
Vos parents?
Ah oui, de ce côté-là. Oui, je pensais qu'on parlait de l'histoire. Mmh. Non, mes parents, mes amis, les gens que je connais. Ça, c'est pas possible.
Moi,
c'est
vous pourriez autopsier? Ou Pauline?
Vous,
maintenant qu'on se connaît un peu?
Maintenant que je vous connais un peu, ça va être difficile. Franchement, je le ferai pas. Il faut garder, quand on autopsie, une neutralité. La neutralité, c'est non seulement être neutre, moi je sais que je le serai si je vous autopsiais, mais il faut en donner aussi l'apparence. Ça, en Belgique, c'est obligatoire. Et l'apparence de la neutralité est perdue dès lors que l'on connaît la personne. Parce qu'il y a un petit soupçon, le moindre, qui permettrait de dire, ouais, mais enfin, ils se sont rencontrés avant, ça fait la deuxième ou troisième fois qu'on se voit, nous deux en plus. Ils se connaissent, ils ont parlé ensemble, donc ils ont sympathisé. Donc il aura tendance à peut-être démontrer des choses qui ne seraient pas démontrées de la même manière par notre légiste. Donc on ne le fait pas.
Ouais. Est-ce que le métier de médecin légiste manque de candidats, de vocations?
Ah,
et
oui.
Quelles sont les qualités requises pour exercer comme vous le faites?
Il faut être médecin.
D'abord.
Ça, c'est une première qualité. Et la deuxième, être observateur, terriblement observateur. C'est la médecine légale, c'est la science du petit indice, de la petite trace sur le corps qui doit orienter.
L'enquêteur.
Ouais.
C'est dans vos bouquins, mais racontez-nous quand même une histoire. Vous découvrez un jour un truc que personne n'avait vu.
C'est un bonhomme qui est mort. On m'appelle en me disant, écoute, on ne comprend pas la cause du décès. Il est aux urgences d'un hôpital. On ne comprend pas de quoi il est mort. On n'a pas eu le temps de le faire passer à la radio, rien. Il arrive, il est couché sur son brancard. Il n'y a pas de sang sur le brancard. Il meurt. Et le parquet est inquiet, il me demande d'aller le voir.
Quel âge?
C'est un homme de 25, 26 ans. Je n'ai pas encore raconté dans mes livres, ça, c'est inédit.
C'est que pour nous.
Ouais. Et c'est en déshabillant le corps et en le retournant que j'ai vu qu'une balle de 22, c'est un petit calibre. C'est du 5,58 mm de diamètre. C'est vraiment petit. Ça sort rarement du corps. La balle était rentrée dans le dos, elle lui avait percé le cœur, elle s'était arrêtée sur une côte, devant le cœur. Personne n'avait rien vu. Et c'est grâce à mon examen qu'on l'a vu. Sans doute, les pompes funèbres l'auraient vu, en préparant le corps. Pas sûr. Parce que comme c'était un indigent, il y a des chances qu'on l'aurait pris comme ça de la table, avec le drap, mis dans la, dans le cercueil, fermé le cercueil, terminé.
Donc ça va orienter, là, ça va orienter l'enquête. Donc on est sur la piste criminelle, et là, les
c'est une piste criminelle. Il y a personne qui s'y une balle dans le dos pour se suicider,
bien
sûr. Donc d'office, c'est une piste criminelle.
Un vieux flic m'a raconté il y a très longtemps que quelqu'un s'était suicidé avec une arme, un 22 long rifle, effectivement, tout petit, et qu'on retrouvait pas la balle. Il y avait un orifice d'entrée dans la tête, il n'y a pas d'orifice de sortie.
C'est
on avait retrouvé la balle dans le pied. Qu'elle avait suivi, il vivait encore un peu, il a dû mettre un moment à mourir, que le sang circulait, qu'on avait retrouvé la balle dans le pied. C'est vrai, ça peut être possible.
Dans le pied, c'est difficile. Par contre, ce que j'ai déjà eu, c'est un type qui se prenait une balle dans le cœur, une 22. La balle s'est ralentie en entrant dans l'aorte, et elle a suivi le chemin de l'aorte. Je l'ai retrouvé pas exactement dans le pied, j'ai trouvé au creux poplité.
Dans la jambe quand même.
Dans la jambe, en suivant le trajet des vaisseaux sanguins, à l'endroit où la balle était devenue trop grosse pour passer.
Qu'est-ce que vous faites de cette collection privée de cadavres? Est-ce que certains éclairent les autres? Est-ce que vous continuez à apprendre à chaque autopsie? Comment est-ce que
on apprend tout le temps. La vie est finie quand on a fini d'apprendre. On apprend tout le temps. Chaque autopsie est l'occasion ou de confirmer quelque chose qu'on a déjà vu, ou d'apprendre quelque chose qu'on n'a pas encore vu et qui permet d'attirer l'attention. Ça s'appelle l'expérience. Et l'expérience, elle vient avec le temps. Elle ne vient pas d'un claquement de doigts, elle vient avec le temps.
Vous gardez des trucs, des objets? Vous avez un musée?
Alors non, mais il y avait un musée. C'est-à-dire qu'à l'Institut de médecine légale... non, c'est pièce de conviction. Mais à l'époque, c'était faisable. On avait un musée, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas de photos, il n'y a pas de DIA, on est au 19e siècle. Et au 19e siècle, pour conserver des pièces anatomiques pour montrer aux étudiants, on avait le droit de conserver des morceaux de cadavres, même s'ils n'avaient pas donné leur accord préalable. Ça, c'est venu plus tard, avec la loi sur le consentement éclairé. On est en 2002. Mais avant ça, c'était faisable. Moi, j'en ai jamais fait, mais j'avais, et j'ai toujours chez moi, enfin, à l'Institut de médecine légale, des bocaux, notamment un, j'en parle dans mon dernier bouquin, d'un type qui s'est fait transpercer le thorax et le cœur avec un pieu en bois, parce que son voisin pensait que c'était un vampire.
Un vampire?
Ouais. Il est toujours dans ma salle d'autopsie.
C'est en Belgique, ça?
Oui.
Ouf.
Donc vous le voyez tous les matins en allant au boulot?
Vous avez les mêmes en France, ou pas quoi?
Donc vous le voyez tous les matins en allant au boulot?
Tous les matins en entrant dans ma salle d'autopsie, je le vois. Il est là. On est tellement habitués à le voir qu'on ne le voit plus.
Vous ne lui parlez même pas, lui?
Je ne parle pas aux morceaux de cadavre.
Vous êtes tout dit.
Ouais.
Alors, pour l'avoir si souvent côtoyé, la mort, est-ce que vous en avez peur?
Non, pas du tout. J'ai peur de la manière de mourir. C'est ce que je disais, pour faire les métiers que vous faites et le mien, il faut avoir réglé son problème avec la mort. Il ne faut plus en avoir peur. On peut avoir peur de la manière de mourir, ça c'est normal. Personne n'a envie de mourir en souffrant, donc c'est logique. Mais avoir peur de mourir, c'est stupide, parce que de toute façon, on va mourir.
Merci d'être venu, merci d'avoir
répondu. Avec plaisir, merci de m'avoir.
C'est toujours un bonheur.
C'est gentil à vous.
De vous avoir avec nous.
Bon, Dominique, ça s'est bien passé, on n'a plus peur de la mort, grâce à Philippe Bouxon.
Non, on a pris l'habitude, force d'en parler.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant plonger dans les secrets du casse du Louvre. Main basse sur le Louvre. C'est le titre de votre livre, messieurs. Et je vous accueille avec plaisir Jean-Michel de Cugis, grand reporter au Parisien, Nicolas Charles Tourand, rédacteur en chef à Paris Match. Et on va citer votre troisième auteur qui n'est pas là, qu'on appelle l'homme invisible, Jérémy Famly. 3 minutes 52, c'est le temps pour réaliser ce casse spectaculaire dans la galerie d'Apollon. Pitchez-nous d'abord la scène.
Ben, ils arrivent à 4. Il y en a deux qui montent dans un monte-charge, et puis deux qui restent sur des scooters. Les deux qui montent, il y en a un qui a un gilet jaune, et puis l'autre qui est casqué, a une casquette intégrale gris. Ils ont des disqueuses en main. Ils vont briser cette vitre qui est pas plus épaisse qu'une vitre de
maison de campagne. Oui, c'est ce que là.
Et ils vont entrer à 9h34 et 10 secondes, l'alarme va sonner. On va pas l'entendre.
On les voit les photos, elle est là la nacelle, vous voyez, elle
est là. Et ils vont se diriger directement, chacun sait où très bien où il va, chacun va aller sur sa vitrine et là ils vont faire la même chose dans leur disqueuse, ils vont faire deux traits verticales, un trait horizontal, comme pour faire une trappe dans laquelle ils vont pouvoir glisser leurs mains au bout de 2 minutes. 2 minutes pour l'un, 2 minutes 10 pour l'autre, qui est plus maladroit. Et ils vont récupérer les bijoux qu'ils vont mettre, l'un dans sa poche, l'autre dans un sac noir.
C'est la suite qui est un peu bricolée.
Après, ils se disent que la police va bientôt arriver, et là, c'est la panique générale. Ils font tomber des bijoux.
Ils en perdent quelques-uns.
Formidable, c'est le dernier qui part et qui va faire une bascule. Et c'est là où il va basculer sur le balcon, char, ouais. Et c'est là où il va perdre la fameuse couronne.
Alors, Jean-Michel, Nicolas, cette affaire, tout le monde la connaît maintenant. Tout le monde la connaît. Sauf que quand on lit votre livre, eh ben, on la connaissait pas. C'est-à-dire, je sais pas où vous êtes allé chercher vos trucs. Donc, je suis l'inspection générale de la police nationale. Et je vous dis, mais où êtes-vous allé chercher ces trucs-là? Qu'est-ce qui vous a parlé?
On révèle pas nos secrets de fabrication, d'abord.
Vous voulez pas me répondre?
Non. On est allé chercher là où il faut chercher, parce qu'on fait notre métier et on enquête, et ça prend du temps. Et c'est des années d'expérience croisées, exactement. Et de contacts et de sources, comme on dit dans notre métier. Donc effectivement, on est parti. Tout le monde connaît l'affaire, tout le monde connaît la scène qu'on vient de raconter. Et c'est tout ce qui a eu avant cette scène et après cette scène qu'on connaissait pas. Et quand on a démarré, quand on a commencé à travailler tous les trois, on est parti avec les mêmes préjugés, les mêmes idées préconçues que tous les Français.
Et en fait,
les
tombées,
unes après les autres, elles sont tombées.
Alors quand vous racontez le SDF qui vit sous sa toile de tente en face, la petite dame qui part travailler, qui va s'installer sur sa chaise dans la galerie Apollon, la chaise est trop lourde, elle la déplace pas, et de là elle aura pas l'angle de vision. Le type qui va faire son footing à Vincennes.
Ouais, c'est tous ces petits regards.
Tout ça, c'est les périodes d'audition. Ouais. Et vous savez où étaient les gens au moment où, et donc vous les réinstallez au début de l'histoire, c'est ça?
Mais en fait, la scène, d'abord, il y a énormément de témoins, il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Donc,
on voit pas beaucoup sur les images de vidéosurveillance, on a l'impression qu'ils sont seuls dans Paris. Alors, et qu'ils dépend, y vont comme ça.
Ça dépend quelle vidéo vous regardez. Ouais. En fait, il y a l'extérieur, c'est un dimanche matin, voilà. Départ de vacances scolaires, enfin le premier week-end des vacances de la Toussaint, donc il y a personne dans Paris. En revanche, à l'intérieur du musée, il y a vraiment beaucoup de monde. Et ça, ça se voit sur les vidéos. Les agents d'entretien, les agents d'accueil, dans le protocole, leur première mission quand il y a une attaque, quelle qu'elle soit, terroriste ou voleur, ou quoi, c'est de protéger le public. Donc c'est ce qu'on voit dans les vidéos. C'est-à-dire que les deux braqueurs entrent dans la galerie, les agents s'en rendent compte, se précipitent vers le public pour les éloigner au maximum. Et tous ces gens-là ont vu ce qui se passait.
Il y a ce jeu fabuleux entre un des surveillants qui a un peu de surveillance, qui va, qui recule, une espèce de danse comme ça. Ouais. Et il dira après sur le PV qu'il a eu peur.
Bah, bien sûr.
Il a eu peur, c'est pas le seul.
Bien sûr.
C'est pas le seul, ils ont eu peur que les deux... parce qu'en fait, c'est un braquage. En fait, le mot braquage n'est pas le bon parce qu'il n'y a pas d'arme.
Ça, c'est Rachida Dati.
Ouais, c'est pas un braquage, il n'y a pas d'arme. Ils arrivent avec deux disques. Alors, une disqueuse, ça peut faire mal, mais enfin, c'est pas encore une arme. Et donc, je pense qu'on aurait tous réagi de la même manière. Vous voyez deux personnes qui rentrent cagoulées dans la galerie d'Apollon avec un truc qui fait beaucoup de bruit dans les mains. Vous prenez peur et vous imaginez qu'il y a une arme.
Ce qui est dingue, c'est que les voleurs, ils ne sont absolument pas dérangés, ils ne se soucient pas des surveillants. Ils sont là, ils continuent à faire leur boulot. Et il y a les types qui sont derrière, qui ne s'en occupent absolument pas.
C'est le jogger qui appelle la police, c'est ça?
Le cycliste.
Alors, le cycliste. Alors,
c'est lui qui donne l'alerte le premier.
Il appelle, il voit les gars monter. Ils sont pas encore dedans.
Parce qu'il se rend compte qu'il y a un truc qui va pas.
Ouais.
Parce que le type, il a un casque intégral, il se dit, ça va pas. Et donc, il fait d'abord une photo.
Ouais.
Et ensuite, il s'écarte.
Entre le moment où il fait la photo et la fin du braquage, c'est quoi, 2 minutes? 2 minutes 30?
3 minutes? Ça doit être ça, ouais.
Alors, et on est quand même juste en face de la PP. On va dire, pour ceux qui connaissent pas Paris.
La préfecture de police.
La préfecture de police, merci. Le musée du Louvre, la Seine, le pont de l'autre côté, c'est la police.
Mais ça va très vite.
Et c'est le nid de guêpe, quoi. C'est vraiment le cœur du dispositif policier. Et il n'y a pas une bagnole qui vient faire un tour.
Alors si. En fait, d'abord, il y a eu pendant longtemps, on a dit que c'était le cycliste jogger. Il était à vélo pour rejoindre
le
copine.
Dans le sportif, quoi.
Bah, merci. tout le monde a dit que c'était le premier à avoir appelé la police. Pas tout à fait exact. C'est même faux, puisqu'il y a eu des alarmes dans le Louvre qui sont parties avant son appel. Mais son appel à lui est tombé au commissariat le plus proche. Et donc, ils ont envoyé une patrouille. La patrouille et à remonter le quai François Mitterrand en sens inverse, en sens interdit, ne sachant pas exactement où avait lieu le casse, ils n'avaient pas d'indication de lieu, ils sont passés devant le casse, devant le camion.
C'est moche.
Pendant que eux descendaient.
Ils ont été mal renseignés.
Et le temps de faire demi-tour, puisqu'il y a des agents d'accueil qui étaient déjà en train d'arriver sur le lieu en courant, ont fait des grands gestes pour leur dire « Vous venez de les rater, faites demi-tour. » Et là, à ce moment-là, les 4 braqueurs montaient sur les scooters pour partir vers Bercy.
D'accord.
Alors après, c'est un jeu de piste à ciel ouvert. Je voulais vous montrer, nous, BFM TV, Ligne Rouge, on a planché sur une grande enquête sur la fragilité des musées. Au Louvre, comment expliquer que les cambrioleurs aient pu s'introduire aussi facilement? Pourquoi les mesures préconisées dans un précédent rapport, vous en parlez dans votre livre, n'avaient pas été appliquées? Et est-ce qu'il existerait des failles de sécurité dans le plus grand musée du monde? Regardez cet extrait.
Je suis complètement convaincu que le Louvre, aujourd'hui encore, pourrait être cambriolé. Il reste des failles. La Joconde, pour moi, c'est pas impossible de voler la Joconde. Je vais mettre des lunettes avec une petite caméra incorporée et vous allez pouvoir voir avec moi à travers les yeux d'un voleur. En fait, ils sécurisent le bas, tout bas pour rentrer et pénétrer, mais ils ne se rendent pas compte les failles qu'il y a dans les hauteurs. Tu rentres par là-bas, tu fais tout le tour la nuit comme ça, la nuit tu te balades sur tous les toits. T'as plein d'issues, plein de petits trous, plein de petites failles, des balcons de partout. Ils escaladent de fenêtre en fenêtre, de balcon en balcon. Et on appelle ça des montes en l'air. Les montes en l'air, c'est des spécialistes de l'escalade. Et là, t'arrives là, boum, t'as la Joconde qui est ici. Ok, il y a une plaque de verre, mais qui n'est pas inviolable. Avec une bonne disqueuse, tu l'éclates.
ça me paraît, le scénario me paraît vraiment très optimiste, très très optimiste. En théorie, on peut échafauder effectivement le vol de la Joconde, mais en théorie seulement. Bon, déjà, il y a des choses dont il n'a pas connaissance, mais c'est bien normal. Donc je pourrais vous dire un certain nombre de choses qui sont plus difficiles qu'il ne le dit, mais bon, voilà.
Les secrets du Louvre, un Ligne Rouge, signé Jérémy Normand, Nicolas Badgioni, Lou Bourgoin, à découvrir très prochainement sur BFM TV. Alors, maintenant, il faut qu'on parle de l'équipe des malfaiteurs. Moi, ce qui m'a bluffé dans votre bouquin, c'est le récit de toutes ces auditions. Devant les enquêteurs, ils vont, au départ, à peu près rien lâcher.
Rien. Oui, ils chiquent, comme on dit dans le jargon policier.
Ouais.
Ils mentent.
Ouais.
Et puis, à la quatrième audition, il y a Doudou Crosbitume qui va dire qu'il veut parler. Et là, on va faire descendre le patron de la BRB en personne, la chef de groupe, pour l'entendre. Et là, bon, il va chiquer, il va raconter une histoire un peu rocambolesque, comme quoi il a, deux jours avant le cas, se rencontré dans un parc, quand il allait acheter du shit, du cannabis, deux slaves, enfin deux personnes du pays de l'Est qui ont une action slave, et
donc
qui ont proposé le marché, mais il savait pas qu'il allait braquer le Louvre, on l'a un peu forcé, quoi. Et puis ensuite, dans la foulée, le deuxième, Guélamin, va lui dire un peu la même chose. Lui, il a rencontré dans la cité un certain Lazare.
Oui, alors là, il est plus des pays de l'Est, il a plus l'accent slave,
il a changé de continent.
Manifestement, c'est pas le même. Non, c'est n'importe quoi, il raconte n'importe quoi. Donc, au bout d'un moment, même les policiers qui les auditionnent disent « Vous vous rendez compte que ce que vous dites est complètement absurde ?»
Mais c'est quoi leur point commun, ces quatre suspects?
Ils se connaissent tous depuis 25 ans. C'est vraiment des potes de cité. Ils ont grandi à Boisvilliers. Ils ont presque fréquenté le même bac à sable. Ils ont arrêté à l'école à peu près, pareil, 5e, 4e, 3e. Et puis, ils se sont forgés leur identité dans la délinquance, et puis le banditisme. Parce que Doudou, le fameux Doudou, là, qui est célèbre.
Mobilette,
voilà, célèbre sur les réseaux sociaux.
Pionnier du rodéo urbain sur les réseaux sociaux. Lui, il a la main sur le cœur. Hein. C'est un type qui l'aide, il porte les sacs des bras. Il a les mains dans les vitrines des bijouteries.
L'un n'exclut pas l'autre.
Il a deux facettes, c'est ça qui est marrant. Et avec lui, dans les quatre, c'est quand même c'est le plus romanesque des quatre, parce qu'il a cette facette où tout le monde l'aime bien à Aubervilliers. Mais vraiment, c'est assez bluffant. Les rappeurs parlent de lui dans les chansons. Il porte les sacs de course.
Gros capital sympathie.
Gros capital sympathie, puis quand même grosse délinquance, quoi, parce qu'il se fait choper sur un braquage de distributeur de billets. On prend son ADN, on se rend compte que ça matche avec le braquage d'une bijouterie quelques mois auparavant. Un braquage assez costaud. Et alors, plus on avance dans l'enquête, et plus on se rend compte que c'est un délinquant chevronné. Le braquage de bijouterie, on voit que c'est un braquage à main armée. Et puis, plus on enquête, plus on se rend compte que c'est pas très clair. C'est armé, mais en fait, les armes, c'était des fusils en plastique.
Tactique,
ouais. Puis en fait, on se rend compte que c'est un type rigolo qui fait un peu n'importe quoi. Il laisse son ADN partout, quoi.
Nicolas, comme disiez tout à l'heure, à la police, ils disent rien. Est-ce qu'ils disent rien pour se protéger tous les quatre? Est-ce qu'ils disent rien de ceux qui sont au-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens au-dessus, vous?
Alors, pendant longtemps, les enquêteurs ont pensé qu'il y avait un commanditaire. C'était la piste privilégiée. Et puis, ben, au bout de 7 mois d'enquête, avec des investigations très approfondies, hein, voitures sonorisées, écoute, surveillance physique, eh bien, il y a absolument aucune trace d'un donneur d'ordre, etc. Et aujourd'hui, tous les fils renvoient à Aubervilliers, à cette bande de potes, et qui a sans doute préparé ce casse entre eux.
Ce casse culotté, quoi.
Alors où on se parle, il n'y a pas le début d'un indice de preuve de quoi que ce soit d'un commanditaire quelconque. Okay. Vraiment.
Qu'est-ce qu'ils ont fait des bijoux? Qu'est-ce qu'ils peuvent en avoir fait? Et qu'est-ce que ça vaut, ces bijoux, quand on habite à Aubervilliers ou ailleurs, hein, et qu'on n'a pas quelqu'un qui va... Qu'est-ce qu'on peut faire de ça?
Il y a deux hypothèses. Soit les bijoux sont toujours en France cachés.
Ouais.
Parce que c'est possible, c'est parce qu'ils sont arrêtés très vite, hein, au bout de 6 jours. Ils étaient sur surveillance même avant. Donc, difficile de se débarrasser des bijoux. Mais la piste aujourd'hui qui semble la plus privilégiée, c'est quand même qu'ils ont réussi à faire partir les bijoux quelque part. La piste du receleur, il y a une interception de Rachid, là, le quatrième qui a été interpellé, et qui parle avec sa sœur et qui dit les trucs, il parle des bijoux, les trucs, chacun aura sa part. Et même si on arrondit à 20, bon, il dit un gros mot derrière, on ne dira pas. Donc ça ouais, évidemment, ça intrigue les et ça laisse penser qu'il y a une piste de receleur.
Par ailleurs, en fait, il y en a un dans les 4 suspects, Slimane, qui a un parcours de délinquant un peu plus charpenté que les autres, et dans lequel il est tout à fait probable qu'il y ait une structure criminelle avec des receleurs.
Une filière, quoi.
Oui, c'est probable, parce qu'on trouve dans un local auquel il a accès, on trouve des pierres de touche, donc un objet qui sert à tester la pureté de l'or. Avec des produits chimiques, donc on n'a pas ça par hasard. Enfin, même si vous faites de la mécanique sur votre scooter, vous n'avez pas des pierres de touche dans votre garage.
Ok. Alors la justice, en la personne de Laure Becquiaux, qui était venue d'ailleurs sur notre antenne, la procureure de Paris, elle avait expliqué en substance que si des informations étaient données sur les bijoux, on pourrait en tenir compte à l'audience, que ça pourrait atténuer, comprenons, le sort judiciaire. C'est quoi la carte?
C'est une carte, celle-là, justement. Maintenant, en plus, c'est qu'il y a un statut de repenti. On peut imaginer que, effectivement, à un moment ou à un autre, il parle.
C'est jouable.
Pour avoir, oui, c'est jouable, je pense.
C'est jouable parce qu'aujourd'hui, en bande organisée, ils encourent 15 ans. Mmh. Alors qu'un vol simple, c'est 5, un vol patrimonial, c'est 7. Enfin bref, pour faire simple, ils passent de 7 à 15. Ils ont des enfants en bas âge. Est-ce qu'ils ont envie de, est-ce qu'ils avaient prévu ça dans leur scénario? Peut-être pas. Et donc, est-ce qu'ils vont négocier pour faire sauter la bande organisée, comme on dit?
Après, ce qui va jouer, sans doute, c'est aussi l'état des bijoux. Ouais. Est-ce qu'on les retrouve ou on en retrouve une partie?
Est-ce qu'on les retrouve grâce à eux ou sans eux?
Dans d'autres casques comme ça, on a retrouvé bien après les bijoux, etc.
Plusieurs mois, plusieurs années.
Très détaillé.
Plusieurs années, parfois.
Là, l'idée, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces bijoux, s'ils les ont dessertis et ça a été fondu, si les montures ont été fondues. Évidemment, ça va. Toute la valeur aura disparu, patrimoniale.
Ouais, la valeur patrimoniale. En fait, ce qui nous fait mal à tous, c'est ça, parce que on raconte un braquage rocambolesque, ça va faire des films, des séries, des documentaires, et on va en parler dans les livres d'histoire. La vérité, c'est que c'est un bout du roman national qui nous a été dérobé à ce moment-là, et ça, quand on y pense, on est tous affectés.
On est affectés, mais les anglo-saxons, ils rigolent beaucoup.
Ouais.
Ça a été beaucoup rire.
Ouais, mais nous, ça nous fait pas rire.
Et si ces 4-là ne collaborent pas, disent pas où sont les bijoux, qu'est-ce qu'ils risquent? C'est quoi les peines?
15 ans en bande organisée. C'est bande organisée, donc c'est 15 ans maximum.
Leurs avocats, c'est des costauds, des bons avocats,
Il y a un peu de tout.
Et surtout, il y a des auditions très prochainement. Donc c'est ça qu'on va suivre la semaine prochaine.
Absolument.
Des avocats de voyous.
Il y a une avocate de voyous. Il y a des avocats qui font la conférence de stage, qui sont réputés, qui ont beaucoup d'éloquence. Des jeunes.
Il y a eu des changements d'avocats au cours de la procédure.
Beaucoup changé d'avocats aussi.
Donc ça va batailler au procès.
On va voir. D'ici le procès, il faut déjà, et l'enquête n'est pas finie.
Et puis entre-temps, on espère quand même toujours pouvoir retrouver ces bijoux, même si on a compris que ce n'est pas l'option la plus probable et que vous dites qu'il y a probablement une filière de receleurs. En tout cas, il y a deux hypothèses solides sur la table.
C'est sûr qu'il y a une piste de receleurs. Après, est-ce que ils ont été écoulés? C'est une autre question.
Dans quel état sont-ils? Est-ce qu'on les retrouvera un jour, Dominique, vous pensez?
Bah écoutez, moi j'aimerais bien qu'on les retrouve, hein. Je suis comme tout le monde. J'ai jamais vu ces bijoux, je suis jamais allé au Louvre. Et je pense que si il les restituait au Louvre, j'irai voir à quoi ressemblent ces bijoux.
Troublant dans l'histoire.
C'est d'une grande tristesse, quoi.
C'est que en fait. Vous demandez aux gens dans la rue, le Louvre, en fait, on s'attend pas à ce qu'il y ait des bijoux au Louvre. Les gens qui savent qu'il y a des bijoux au Louvre, c'est soit des gens qui connaissent très bien le Louvre, soit des gens qui ont envie de les voler. Ouais. Et donc, exactement. Comment ils ont eu envie de voler ces bijoux? Est-ce qu'ils ont eu un tuyau ou des commanditaires? C'est toute la question.
Passionnant. Merci de nous avoir. Bravo. Merci, messieurs. Merci pour cette enquête. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci, Dominique, de m'avoir accompagné. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, même joueur, pour un nouveau numéro d'Affaires Suivantes. Vous avez rendez-vous avec l'actu sur BFM TV, mais tout de suite, c'est la météo. Ne bougez pas.
Même jour, même heure, même joueur.